Merci. Trois textes bibliques me guident dans l'appréhension et aussi dans la position morale que j'essaie d'adopter, non seulement dans une prise de position, des prises de position éthiques, mais aussi qui forgent ma morale personnelle. Que je voudrais citer, dans le livre du Deutéronome 32, verset 39, cette affirmation très forte, très massive, c'est moi, moi seul qui suis Dieu, moi je fais mourir et je fais vivre. Dieu, maître de la vie et de la mort. Dans l'évangile de Luc au chapitre 10, la parabole du bon samaritain qui me fait passer de la question qui est mon prochain à ma responsabilité vis-à-vis personnelle du prochain, va et toi fais de même. Et un texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 43, qui est pour moi une mise en garde, c'est la critique de Jésus contre ces religieux qui charge les autres de fardeaux qu'eux-mêmes ne pourraient pas porter. Et cela me met moi-même en garde sur ces questions, dans ces questions bioéthiques, d'imposer aux autres des fardeaux que je n'envisagerais pas moi-même de porter. L'homme, créateur de l'homme, cette idée met la théologie, mais aussi l'éthique, au défi, et les nouvelles biotechniques et les technologies émergentes mettent et la théologie et l'éthique au défi. Je voudrais citer C.S. Lewis dans un livre de 1943 qui s'appelle L'abolition de l'homme et qui a une critique, qui se livre à une critique prophétique de la technique. Chaque nouveau pouvoir gagné par l'homme est également un pouvoir sur l'homme. Chaque avancée le laisse plus faible autant que plus fort. Dans chaque victoire, à côté du général qui triomphe, il est un prisonnier qui suit le cortège triomphal. La nature humaine sera la dernière partie de la nature à capituler devant l'homme. Nous serons par conséquent libres de faire de notre espèce ce que nous désirons qu'elle soit. C'était en 1943, hein, c'est quand même assez impressionnant. La bataille sera bel et bien gagnée, mais qui précisément l'aura gagnée? La conquête finale de l'homme se révèle être l'abolition de l'homme. Alors, cette vision pessimiste de la technique appliquée à l'homme est-elle fondée? Se vérifie-t-elle? Ou est-elle une vision biocatastrophiste, comme dirait le philosophe Dominique Lecourt? Est-ce qu'après tout, les comités d'éthique, les lois de bioéthique ne mettent pas une limite à ce pouvoir de l'homme sur l'homme? N'y a-t-il pas aussi un danger à moraliser trop vite sur les nouvelles technologies? Alors la théologie chrétienne qui conçoit l'homme comme créé en image de Dieu est aussi mise à l'épreuve par ces questions. Alors j'aimerais aborder quelques faits sur ces avancées techniques, voir en quoi ces faits interpellent la théologie chrétienne et quelle peut être une réponse en prenant l'exemple du clonage reproductif humain. J'aborderai la question de la médecine d'amélioration. Création, amélioration ou abolition de l'homme, pour reprendre le terme de C.S. Lewis, je l'aborderai sous l'angle de la revendication transhumaniste, Et enfin, pour donner un peu de chair au sujet, pour sortir des généralités et des prophéties futuristes, je choisirai de prendre le cas d'un bébé médicament, entre guillemets, tel que René Friedman en fait le récit. Et je me pencherai sur le récit qu'il en fait dans son livre « Conviction ». Alors, les faits, tout d'abord. En octobre 2007, le biologiste Greg Venter annonçait la création d'une bactérie au génome artificiel, baptisée Mycoplasma Laboratorium, et a affirmé « Je suis en train de créer la vie artificielle ». Il conclut « Nous sommes en train de passer de la lecture du code génétique à la capacité de l'écrire ». En 2009, le biologiste chinois Qi Zhu a réussi à reprogrammer une cellule adulte de souris pour donner naissance à un souriceau. En 2011, est né en France le premier médicament issu d'un double DPI, dépistage préimplantatoire, pour vérifier qu'à la fois cet embryon était indemne d'une maladie génétique grave et s'il était donneur compatible avec son frère ou sa sœur. Sommes-nous entrés dans l'ère de la fabrication utilitaire de l'être humain ? Alors, ces faits interpellent la théologie et l'éthique. L'homme joue-t-il à Dieu ? Sur cette question, Paul Ramsay disait « Les hommes ne devraient pas jouer à Dieu avant d'apprendre à être des hommes. Et après qu'ils ont appris à être des hommes, ils ne joueront pas à Dieu. » Donc, c'est une jolie façon d'aborder la question. Est-ce que, après tout, si l'homme est créé en image de Dieu, eh bien, il ne doit pas faire comme Dieu, créer. Et certains théologiens vont jusqu'à dire que l'homme peut être co-créateur. Alors, je réfuterai cette thèse, hein, qui est tenue par certains théologiens américains, et Paul Ramsay, qui est un des pères de la bioéthique américaine, critique très vivement ces théologiens en disant « ce ne sont pas des théologiens, ce sont des prêtres qui chantent les louanges de la technique ». Le théologien américain Ronald Cole Turner remarque aussi en passant qu'on parle rarement dans une même phrase de co-création et de péché. Là aussi, hein, le problème de la tendance de l'homme au mal n'est pas abordé. Alors, est-ce que Greg Venter a créé une vie nouvelle ? Alors, un autre biologiste, Joël de René, dit qu'il a juste bricolé, en fait, la vie. Il a détourné l'activité de levures bien vivantes pour leur faire le travail. Aucune cellule vivante n'a pu encore être réellement fabriquée artificiellement. Alors, on voit bien, là, dans l'affirmation de Greg Venter, finalement, qu'il est que ce qui est important, c'est le discours qui va vendre un résultat, qui va faire rêver. Et quand Greg Venter parle de création de vie artificielle, au fond, il fait de la biotechno-logorée. Très important pour avoir levé des fonds. Alors, ces dernières années est très intéressant, un aspect positif dans ces découvertes de la biologie et la biologie de synthèse, et aussi la découverte de la reprogrammation des cellules, eh bien, c'est la plasticité du vivant. Et je crois qu'il y a place pour une bonne gérance de la création de cette plasticité du vivant. Et je m'étais interrogé il y a quelques années sur la question des OGM. en me demandant si la transgenèse était-elle une transgression de la Genèse. Et je ne vous fais pas la démonstration, mais ma réponse était non. Il me semble que cette technologie, elle s'inscrit dans le cadre de la création. Et il y a bien une question de bonne gérance. Après vient bien sûr la question des applications, vient bien sûr la question des puissances, de l'argent qui veulent s'emparer de ces découvertes. Et on pense bien sûr à ces paysans indiens qui se sont endettés pour acheter des semences OGM et qui, à la suite de mauvaises récoltes, se sont suicidés avec les pesticides dont on leur avait dit qu'ils n'avaient plus besoin. Donc il y a un détournement ici, une utilisation mercantile de la technique par des puissances, ces puissances qui sont inspirées par le mal. Jésus dit que le diable est menteur et meurtrier. Et j'en vois une illustration dans cette affaire. Mais dans le principe, la transgenèse n'est pas diabolique. Je trouve que cette question de la plasticité du vivant est, fait partie de la gérance de la création. Alors, fabrication de l'homme, rêve ou cauchemar, on pense à la question du clonage humain. Alors, l'homme, la Genèse nous donne une vision de l'humanité comme créée par Dieu et en image de Dieu. Or, voici que certains prétendent créer une humanité par l'homme, en image de l'homme. Dans la Bible, le verbe qui est utilisé, le verbe créer, le verbe bara, est à Dieu seul pour sujet. Ève, qui engendre Caïn, s'écrit avec fierté « J'ai acquis ». Alors, il y a une discussion sur la traduction « J'ai acquis ou formé un homme avec l'aide de Dieu ». Derrière ce désir de création, on peut repérer un désir de toute puissance. Hannah Arendt disait que une des racines du totalitarisme, eh bien, c'était le ressentiment de ne pas s'être créé soi-même. Le ressentiment contre le fait de ne pas s'être créé soi-même. Et ce ressentiment, on l'éprouve quand on lit certains écrits des transhumanistes, ceux qui promettent une nouvelle humanité par les biotechniques. L'un d'eux décrit le corps humain comme une machine viande, avec un certain dégoût pour ce corps créé. Alors, si on examine la réalité hypothétique, parce que il n'y a pas eu de clone humain réussi à ma connaissance, la réalité hypothétique du clonage humain, on s'aperçoit tout d'abord que le clonage n'est pas une création ex nihilo, de rien, encore une fois, il s'agit plutôt d'un bricolage du vivant, c'est une reproduction asexuelle, sans sexualité, mais pas asexuée, il y a bien une ovule, donc il y a bien une cellule sexuelle. Ensuite, celui qui se fait cloner ne crée pas une image de lui-même parfaite, une copie conforme, une illustration de ce fait que c'est pas une copie génétique parfaite, c'est que les veaux clonés n'ont pas les mêmes tâches que l'adulte à partir duquel ils ont été clonés. Donc voilà, il y a des facteurs, ce qu'on appelle les facteurs épigénétiques aussi, qui interviennent. Donc voilà, c'est pas une reproduction parfaite. Sur le fait que le clonage humain ferait perdre sa dignité à l'homme en le fabriquant et aussi sa liberté, on peut aussi discuter. Fonder la liberté de l'homme sur la loterie génétique est assez curieux. Certains philosophes, comme Habermas, ont dit que voilà, le fait qu'on enlevait du hasard dans cette reproduction asexuelle, eh bien, nuisait à la liberté. On commandait, on dirigeait l'enfant cloné. Or, Jean-Paul Renard, qui est un des spécialistes français de la du clonage des animaux, fait remarquer que le procédé est beaucoup plus aléatoire et instable que la méiose. Donc en fait, il génère beaucoup plus de hasard. Donc là aussi, il y a un décalage entre ce qu'on imagine une reproduction très dirigée et une réalité beaucoup plus aléatoire. Jean-Paul Renard fait remarquer que d'ailleurs c'est ce côté aléatoire de la technique et dangereux de cette technique, hein, beaucoup de, il y a une mortalité très importante des clones, eh bien suffirait à l'exclure pour l'humanité. Alors vous savez que dans la loi française, il y a une loi qui a été votée incriminant le clonage humain, et avec une incrimination qui est assez étonnante. C'est qualifié de crime contre l'espèce humaine. Alors, je crois que c'est très critiquable d'un point de vue juridique. C'est assez difficile comme incrimination à cerner, mais assez significatif. Et au fond, je pense que c'est un reste de perception de terreur sacrée. De toucher à la nature humaine. Derrière ce crime contre l'espèce humaine, il y a l'idée d'une nature humaine, je pense, qui est à l'arrière-plan. Et au fond, c'est peut-être une bonne crainte, comme le dit la Bible, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Alors, comment penser théologiquement cette question du clonage et les atteintes éventuelles, sans entrer dans un racisme anti-clone, en faisant a priori des clones des êtres inférieurs? Eh bien, je transposerai des catégories de la théologie trinitaire à cette question du clonage, la distinction dans la Trinité entre Trinité ontologique et trinité économique. La trinité ontologique, c'est ce qui concerne donc l'être, Dieu est un en trois personnes, et la trinité économique, ce sont les relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour moi, un clone d'humain serait bien un humain. Il n'y aurait rien de changé à son être. En revanche, il pourrait être perturbé au niveau de ses relations. Et il me semble que c'est bien dans cette question relationnelle, hein, dans la position, dans la famille, quelqu'un parlait à propos du clonage d'un crime généalogique, qu'on peut trouver des arguments contre le clonage humain. Alors bien sûr, hein, je ne ferai pas une scission entre cet être, voilà, et ce relationnel, je critiquerai au passage d'ailleurs la scission que fait entre l'être et le relationnel l'affirmation d'un statut relationnel pour l'embryon humain. L'embryon est humain. Affirmer qu'il deviendrait humain, qui serait créé humain par une parole humaine, voilà, c'est une affirmation qui, à mon avis, dépasse justement le pouvoir de la parole humaine. Il est humain, mais c'est vrai qu'il va apprendre à être humain aussi par cette parole qui va lui apprendre qu'il est reconnu comme un humain. Mais elle ne le crée pas humain, cette parole. Donc, sur la question du clonage, pas de véritable création de l'homme par l'homme, pas d'abolition de l'image de Dieu, de l'homme en image de Dieu, mais un danger de perturbation des relations humaines. Alors, sur cette question de l'intervention des technologies, des biotechnologies sur la fabrication ou la transformation de l'humain, au fond, il y a trois grandes positions. On peut distinguer les bioconservateurs, ceux qui veulent qu'on ne touche pas à la nature humaine, les libéraux, tant que ça fait pas de mal, laissons faire. Voilà, si quelqu'un veut choisir la couleur des yeux de son enfant, son sexe, ben après tout, ça ne nuit à personne. S'il y a un marché pour cela, voilà. Et puis, alors la troisième position, ce sont les transhumanistes. Eux sont des militants de la transformation de l'humanité par des techniques. Et je voudrais vous lire le premier article du manifeste transhumaniste. Nous envisageons la possibilité que l'être humain puisse subir des modifications telles que son rajeunissement, l'accroissement de son intelligence, qui ne rêverait pas surtout en période d'examen, alors l'accroissement de son intelligence, mais par des moyens biologiques ou artificiels, la capacité de moduler son propre état psychologique, voilà la neuropharmacologie, l'abolition de la souffrance et l'exploration de l'univers. Le credo des transhumanistes, c'est « Je crois au salut par la technique toute puissante ». Et leur éthique, c'est « Liberté ». Liberté totale pour la recherche. Alors, ils ont subi de nombreuses critiques. Il y a un courant qui n'est pas strictement transhumaniste, mais sur lequel les transhumanistes s'appuient, qu'on appelle la médecine d'amélioration, hein, qui consiste à vouloir augmenter les capacités de l'être humain. Le vocabulaire lui-même m'interroge. Quand on parle de médecine d'amélioration, cela me dérange. Quand on parle d'amélioration de la race bovine, ça me crée aucun problème. Quand on parle d'amélioration de la race humaine, là, ça me crée quelques problèmes, surtout quand cette amélioration n'est pas morale, mais dans les capacités physiques, dans la puissance de l'homme. Alors certains parlent aussi d'amélioration des capacités morales, d'ailleurs dans ce credo transhumaniste, hein, il en a été question. Et d'ailleurs, il y avait le titre d'un journal qui disait « Raciste, en colère, la solution est peut-être dans une pilule ». Alors hein, c'était l'idée de médicaments qui puissent agir sur l'hormone de l'empathie. Alors, Nick Bostrom, philosophe suédois, qui est un des fondateurs d'une association internationale transhumaniste, a essayé de répliquer aux critiques adressées aux transhumanistes. Et il dit trois choses, c'est la nature humaine n'existe pas, la mutation transhumaniste sera toujours un choix moral, et l'augmentation est pour tous. La nature humaine n'existe pas. Alors, c'est intéressant parce que là, on rejoint exactement ce que dit C.S. Lewis sur l'abolition de l'homme. Voilà, on commence par dire que la nature humaine n'existe pas. Avant de s'en prendre à l'homme lui-même. Et il faut quand même se souvenir, cela me semble un avertissement, que tous les totalitarismes qui ont voulu créer un homme nouveau ont commencé par massacrer des hommes réels. Donc, cela met en garde contre cette affirmation que la nature humaine n'existe pas. Alors, bien sûr, c'est vrai qu'il y a un débat. Le mot nature crée débat. Alors, entre les philosophes, le mot nature crée débat. Le mot nature humaine crée débat. Une philosophe comme Hannah Arendt, par exemple, reconnaît l'idée d'une nature humaine, mais elle dit qu'au fond, on ne peut pas vraiment la connaître. Et en cela, au fond, elle rejoint Calvin qui dit que, au début de l'institution chrétienne, que en fait, que l'homme, pour se connaître, eh bien, il doit connaître Dieu. C'est seulement en connaissant Dieu qu'il pourra se connaître. Donc, si on se prive, au fond, de celui qui nous a créé à son image, effectivement, on va avoir du mal à se connaître. Et Hannah Arendt essaye de fonder les droits de l'homme sur la condition humaine et non pas sur la nature humaine. Je ne sais pas si elle y arrive vraiment. Mais il me semble très, très inquiétant cette affirmation de l'inexistence de la nature humaine. Et au fond, j'aurais envie de dire que la charge, même si on n'arrive pas à saisir la nature humaine, la charge de preuve repose sur celui qui dit qu'il n'y a pas de nature humaine. Parce que nous nous éprouvons les uns les autres humains, même si nous ne pouvons pas saisir le tout de la nature humaine. Cette affirmation qu'il n'y a pas de nature humaine demanderait à être démontrée. La mutation transhumaniste serait toujours un choix moral. Alors c'est le libéralisme qui est derrière. Quand on parle de choix moral, on est assez perplexe, surtout que l'auteur Nick Bostrom a écrit un article célèbre pour prendre au sérieux l'hypothèse Matrix. Vous savez, Matrix, c'est un homme qui croit, qui vit dans un monde, et en fait, il rêve ce que lui font rêver les machines. Et donc, Nick Bostrom imagine qu'à un moment donné de développement de l'informatique, eh bien, les ordinateurs pourront créer des mondes virtuels, et nous ne saurons pas distinguer entre les esprits virtuels et les esprits réels. Voilà, c'est un nouvel animisme, mais là, informatique. Donc, l'idée, dans cette vision du monde, l'idée de liberté, elle me semble assez problématique. L'augmentation est pour tous. Alors, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a des retombées positives de technologies de pointe pour l'ensemble de l'humanité. Il me semble que cette médecine d'amélioration qui capte des moyens importants, elle le fait au détriment de la médecine curative. Et en lisant les prétentions de ces technoprophètes, eh bien, je pense à la phrase de Kierkegaard, « Ils construisent des palais d'idées alors que l'homme... » Alors, j'adapte la phrase de Kierkegaard. Hein. Ils construisent des palais d'idées alors que l'homme vit dans un bidonville. Alors, j'aimerais citer, par rapport à ce transhumaniste, quelqu'un qui aurait pu paraître un partisan de cette transformation de l'homme par les biotechnologies. C'est le philosophe Peter Strauss. Strauss-Dirch, qui a fait scandale avec son livre sur le parc humain, où il envisageait la sélection, une autodomestication de l'homme par la sélection génétique. Et bon, évidemment, en Allemagne, ça a fait scandale. Et là, dans une interview récente, il dit, à mon avis, les techniciens contemporains n'ont pas vraiment compris et pensé l'exception humaine. Ils en sont encore à vouloir créer cette exception en ajoutant quelque chose, en manipulant quelques gènes, alors que cette exception existe déjà. Ne nous resterait d'issue que la méditation contemplative, parce que devant l'existence d'un être tellement impossible biologiquement, l'étonnement devrait être si grand que l'ingénieur laisserait tomber ses outils. Je trouve ça assez intéressant, il est passé de l'idée de sélection à l'idée d'émerveillement devant cet être si étonnant, qu'est l'homme. Et je suis d'accord avec lui que parfois l'ingénieur devrait laisser tomber ses outils, si c'est pas pour améliorer vraiment la situation de l'humanité. Alors, j'aimerais terminer par la lecture d'un cas de figure de bébé médicament, tel que l'a fait René Friedman. Le 26 janvier 2011, à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, est né un enfant qui a été sélectionné pour être à la fois indemne d'une maladie très grave, la bêta-thalassémie, une maladie qui cause une anémie très très grave, qui demande donc des transfusions sanguines régulières et qui retentit sur la croissance de l'enfant, son ossature et parfois les capacités intellectuelles. Alors, ce couple avait déjà eu 2 enfants. Pour le deuxième enfant, il y avait eu un dépistage prénatal qui avait montré que le deuxième enfant était atteint de cette maladie. Les parents avaient néanmoins décidé de garder cet enfant. Donc, ils ont été envoyés vers l'équipe du professeur Friedman pour bénéficier d'un diagnostic préimplantatoire, espérant justement avoir un troisième enfant. Ils avaient un désir d'un troisième enfant qui soit indemne de la maladie. Et voici ce qu'écrit Friedman. En les écoutant, il nous a paru fondé de leur faire connaître la possibilité d'un bébé double espoir. Si l'on réimplante un embryon exempt de la maladie et compatible avec vos enfants, le sang de son cordon pourrait aider à soigner ses aînés. Seriez-vous d'accord ? La jeune mère traduisit à son mari, un grand sourire fut leur réponse. Ah oui, ils étaient d'accord. Le père, bouleversé, se confondit en remerciements anticipés. L'espoir renaissait. Donc, à ce couple, venu dans l'espoir que la médecine puisse les aider à avoir un enfant indemne de cette grave maladie, Friedman fait entrevoir l'espoir que cet enfant soit non seulement indemne, mais puisse être le thérapeute de ses frères, donc de son frère et de sa sœur. Je pense que le mot thérapeute est plus juste que médicament. Là. Alors Friedman ajoute cette remarque intéressante. À nos yeux, leur demande était pure. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient être soupçonnés d'aucune tentative de détournement de la loi, d'aucune démarche de complaisance ni d'aucun favoritisme. Ce jeune couple justifiait à lui seul la nécessité de ce genre de traitement. Je trouve que c'est très intéressant cette remarque de Friedman. À nos yeux, leur demande était pure. C'est donc il y a une difficulté dans cette technique. Elle crée un problème moral pour qu'ils mettent en avant la pureté de cette demande. On serait attendu à ce qu'ils disent leur demande était raisonnable. Non, leur demande était pure. Hein, c'est sur le plan moral. Alors, c'est vrai que ce couple venait pour avoir un enfant. Et pas d'abord pour avoir un enfant qui traiterait son frère et sa sœur. Donc on comprend cette idée de pureté. Et d'ailleurs, cette demande, elle rentrait idéalement dans le cadre tracé par le Comité consultatif national d'éthique. Permettre qu'un enfant désiré représente un espoir de guérison pour son aîné est un objectif acceptable s'il est second. Donc, voilà. Objectif acceptable s'il est second. Pourtant, Friedman, dans le même ouvrage, critique, à juste raison, à mon avis, l'avis du Comité consultatif national d'éthique, puisque il dit, à propos de cette idée qu'il faudrait que les parents veuillent d'abord l'enfant pour avoir un enfant, avant d'avoir un enfant pour soigner, il dit c'est une précaution des plus honorables, mais utopique. Et là, dans ce cas de figure, l'intention était pure, puisqu'ils ignoraient la technique, que la possibilité de thérapeutique. Mais s'ils le savaient, voilà, c'est certainement beaucoup plus mélangé comme attitude, comme rapport aussi à cet futur enfant. On sait que le désir d'enfant est quelque chose de très complexe. Alors, curieusement, dans cette affaire de bébé médicament, Friedman se place du côté du démiurge. Friedman n'est pas co-créateur, mais plutôt démiurge dans cette affaire. C'est la façon dont il se présente lui-même qui est très intéressante. Donc, à propos de ce bébé médicament, pas bébé médicament, bébé thérapeute plutôt, Friedman dit « Il a apporté du bonheur dans sa famille, sa naissance est vécue comme un bienfait, une bénédiction. Quelle jolie venue au monde! Un enfant du ciel? Non, un enfant de la science. » Intéressant comme exclusivité. Un enfant de la science au service de l'homme et de l'amour. Là, au service de l'homme, on sent qu'on retombe dans l'instrumentalisation. Et c'est cette exclusivité, un enfant du ciel, non, un enfant de la science. On pourrait faire une toute autre lecture de cette histoire. On pourrait tout à fait faire une lecture croyante de cette histoire. Surtout au vu du faible taux de réussite de ce DPI HLA compatible. Hein, à peu près 9%, ce qui est très faible, d'après Friedman. On pourrait au contraire dire que cette réussite n'est pas de l'ordre de la fabrication, mais bien de l'ordre du miracle, et que Dieu, dans sa providence, s'est servi des médecins pour exaucer la prière des parents. Alors les parents, ils sont muets dans cette histoire. On ne sait pas très bien ce qu'ils pensent, hein, de l'affaire. Il serait intéressant de savoir quelle est la lecture que font les parents de la naissance de cet enfant. Est-ce que c'est le langage de la performance, de la fabrication, ou le langage de l'action providentielle? Tout ce qu'on sait des parents, c'est au fond le prénom qu'ils donnent à l'enfant, notre espoir. Et là, c'est vrai qu'ils donnent un mandat très lourd à cet enfant et qui pose question quelle charge ses parents font reposer sur cet enfant si le sang de cordon de cet enfant n'arrive pas vraiment à soigner. Alors c'est la sœur, il était compatible avec la sœur. Il est vrai qu'il y a une dissymétrie entre le médecin qui est technicien actif et le patient qui subit ici. Mais je suis impressionné par le fait qu'une même technologie peut être lue comme soutenant l'idée d'un homme démiurge et comme soutenant l'idée d'une providence divine. Et je pense ici à une phrase de Calvin, tout un chapitre de Calvin dans l'Institution chrétienne sur la Providence, qui est très intéressant, dans le premier livre de l'Institution chrétienne au chapitre 16 et au paragraphe 9. « Bien que toute chose soit conduite par le conseil de Dieu, elle nous donne cependant l'impression d'être due au hasard. » Donc, voilà, le hasard a une consistance pour nous. Il y a des choses qui nous échappent, bien que, en fait, Dieu conduise tout par son conseil. Alors, j'aimerais revenir en conclusion aux trois passages bibliques que je citais. Deutéronome 32, verset 39, c'est moi seul qui suis Dieu, moi je fais mourir et je fais vivre. Voilà, quand l'homme prétend faire vivre et mourir, avoir le pouvoir absolu sur la vie et la mort, là il se prend pour Dieu. Mais en réalité, c'est toujours Dieu qui décide. La parabole du bon samaritain, elle me fait passer des questions ontologiques d'être « mais qui est mon prochain ?» Que pouvez-vous me dire le statut de l'embryon à la question de ma responsabilité morale vis-à-vis de mon prochain qui a besoin de moi. Va et toi fais de même. Enfin, la parole d'avertissement de Jésus sur les pharisiens. Oui, alors sur le bon samaritain, je me disais que on pourrait imaginer que le lévite serait maintenant un de ces prêtres des nouvelles technologies qui court au temple des nouvelles technologies pour bénéficier et adorer ces nouvelles technologies et qui laisse sur le côté voilà l'humanité souffrante. Et que Jésus indique clairement la priorité, se soucier non pas d'enrichir les puissants, mais de venir au secours des pauvres et des souffrants. Finalement, l'avertissement de Jésus sur le danger pour les religieux de mettre des fardeaux sur les épaules des autres qu'ils ne porteraient pas eux-mêmes m'invite à prendre, par rapport à la question du diagnostic prénatal, une position qui ne serait pas de l'interdiction, mais qui serait de réclamer un droit à l'ignorance et de militer pour l'accueil de l'enfant handicapé. Je pense ici à un couple originaire des Caraïbes qui était venu me voir affolé suite à un test qui montrait statistiquement un risque de trisomie 21 important pour leur futur enfant. Et ils étaient complètement paniqués. Culturellement, c'était quelque chose qui était nouveau pour eux. Ils étaient prêts à faire avorter tout de suite cette femme. Et d'abord, j'aurais un peu expliqué. Voilà, ce sont des statistiques, ce n'est pas la vérité. Il y a des possibilités. Je leur ai expliqué aussi qu'ils avaient le droit aussi de refuser l'amniocentèse qui leur était proposée. Et finalement, ces parents ont décidé de garder cet enfant qui se porte très bien et qui est absolument pas trisomique. Mais c'était impressionnant parce que dans leur panique, voilà, nos représentations aussi sont dépendantes de notre vécu. Le mari avait un petit cousin qui était qui souffrait. Voilà, c'est maintenant le nom va m'échapper. C'est un problème de tête hydrocéphale, voilà, merci, je cherchais le mot. Et donc, ce qui n'a rien à voir avec la trisomie 21, mais voilà, tout de suite, il assimilait, donc voilà, on lit les situations aussi à la trisomie 21, à cette vision de ce petit cousin hydrocéphale. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.
Si on a un petit peu de temps pour des questions, est-ce que l'un d'entre vous a une question ?
Effectivement, ceux qui défendent voilà, le droit au dépistage, par exemple la trisomie, diront que ce n'est pas un eugénisme, parce que l'eugénisme nazi était un eugénisme d'État. Mais quand il y a une pression sociale sur l'individu qui le conduit à envisager pratiquement, hein, dans plus de 90% des cas en France, l'avortement suite à un test positif de trisomie, eh bien, il y a bien un eugénisme social. Et Didier Sicard, président honoraire du Conseil consultatif national d'éthique, n'a pas hésité à dire qu'il y avait une politique eugénique en France avec cette politique du dépistage systématique de la trisomie. Voilà. Alors on peut, voilà, effectivement, ce n'est pas l'eugénisme d'État, hein, mais il y a une pression sociale vers une sélection et une moindre acceptation sociale de la souffrance, du handicap. Il me semble que l'acceptation sociale de la souffrance, du handicap, elle diminue plutôt. Donc il y a une pression sociale eugéniste.
Il y a aussi, on envisage aussi le clonage pour obtenir des pièces de rechange.
Oui, alors ça pose la question. Ce qui est très curieux, c'est que il y a une véritable diabolisation du clonage reproductif humain, mais on a voulu distinguer un bon clonage, le clonage thérapeutique. Alors, comme disait Jean-François Mattei, qui est un médecin et qui a été à l'origine des premières lois de bioéthique, il dit « Quand on veut faire passer quelque chose en médecine, il faut dire que c'est thérapeutique. » Ça pose question. Là, il y a une vraie... Parce qu'il y a création d'embryons pour... justement pour être un matériau, pour créer des lignées de cellules souches qui pourraient éventuellement soigner. Alors ça pose de vraies questions, hein, par rapport à des maladies extrêmement graves. Voilà, si c'était le seul espoir thérapeutique. Je trouve que c'est extrêmement problématique, hein, de faire de l'embryon humain un matériau de recherche.
Dernière question.
Merci pour votre exposé. J'avais une question qui concerne la médecine d'amélioration. Disons, intellectuellement et théoriquement, il est relativement facile, disons, de faire la distinction entre une médecine qui soigne et une médecine qui améliore. Mais dans la pratique, disons, cette distinction peut devenir plus difficile, en fait. Hein. Quand est-ce qu'on arrête de soigner et qu'on commence à améliorer? Où c'est que vous mettez, disons,
le curseur? Oui. Alors, je crois que ce qui est un peu le point de repère, c'est la restauration, hein, de la nature créée par Dieu. Après, voilà, on peut... Alors, l'amélioration des performances, bien sûr, on peut boire un café, c'est une médecine basique d'amélioration pour améliorer ses performances quand on est un petit peu éteint. Je crois que ça pose. C'est vrai que la frontière elle est pas si simple que cela. Par exemple, Gilbert Autois, à propos des cyborgs, hein, donc cette idée d'un mélange d'homme-machine. Il fait la distinction justement entre la prothèse et le cyborg, hein, la prothèse qui vient compenser, voilà, une perte, et puis le cyborg qui crée de nouvelles facultés. Par exemple, si on pouvait créer la faculté pour l'œil humain de voir la nuit, voilà. Je dirais que la distinction serait entre la restauration de ce qui est et la création effectivement de capacités nouvelles. Alors là, une parenthèse, je suis sceptique sur le fait que le simple fait d'être appareillé par des machines fasse de l'homme un cyborg, hein, un post-humain, qui ne soit plus un être humain. Là, il me semble qu'il y a une confusion un petit peu entre les fonctionnalités de l'homme et l'être de l'homme. Même un homme appareillé reste toujours un homme. Alors, après, la question, pour moi, une des propriétés de l'être en image de Dieu, c'est cette capacité d'être en relation avec Dieu et en relation avec son prochain. cette capacité d'aimer. Donc voilà, si une pharmacologie du cerveau un appareillage de l'homme le troublait dans cette capacité, il agirait effectivement sur la nature de l'homme.